roi vénère. Urus Lamborghini, Villa Damos Mili. Je suis enfant béni.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 13 septembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Nous commençons par les titres. Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale a pu finalement élire son président. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Barthélémy Simpore, limogé et remplacé par le président Damiba lui-même. Au Nigeria, une attaque contre le convoi d'un sénateur fait 5 morts dans le sud-est. Ukraine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken juge qu'il est trop tôt pour juger la contre-offensive ukrainienne dans le nord-est face aux forces russes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Sénégal, l'installation de la 14e législature de l'Assemblée nationale a été le théâtre de scènes chaotiques entre l'opposition et le pouvoir pendant plusieurs heures avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour permettre l'élection du nouveau président de cette Assemblée. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour que le vote du bureau de l'Assemblée nationale puisse commencer. Avant cela, les députés se sont crêpés les chignons pour des questions allant du mode de scrutin au cumul de la fonction de député avec celle de ministre. Des débats qui ont provoqué des échauffourées entre députés au sein même de l'hémicycle. C'est donc la présence de la gendarmerie nationale qui aura permis de porter Dr Amadou Mam Diop à la tête du Parlement sénégalais. Ce docteur en pharmacie, inconnu du grand public, enchaîne son 3e mandat de député après 2012 et 2017. Maire de la commune de Richard Toll, située au nord du Sénégal, il était également directeur de la société d'aménagement de la petite côte SAPCO. Il succède ainsi à Moustapha Niass au bout d'une journée marquée par de fortes tensions entre les députés de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Une mouvance qui risque d'être secouée par la non-élection de l'ancienne première ministre Aminata Touré, dite Mimi. Celle que tout le monde voyait au perchoir a finalement été laissée à quai par le président de la République Macky Sall, par ailleurs président de la coalition au pouvoir. Un fait qui a provoqué la frustration de Mimi Touré, qui n'a pas attendu le vote et qui a fait entendre son mécontentement via son entourage. Un fait qui interroge sur son avenir au sein de la coalition et sur la stabilité même de cette mouvance présidentielle. Sedina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, mini-remaniement du gouvernement hier, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, s'occupe désormais de la défense, un poste occupé jusque-là par le général Barthélémy Simpore. Il était le ministre de la défense de l'ex-président Roch Kabore avant le putsch du 24 janvier. Il s'agit d'un léger remaniement puisque c'est le seul membre du gouvernement qui quitte. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au journal de la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement annonce le remaniement du gouvernement. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, assume désormais les fonctions de ministre de la Défense. Il remplace le général Barthélémy Simpore, qui occupait ce poste depuis le régime de Roch Kabore. Et pour seconder le président Damiba, le colonel-major Silas Keïta a été nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Ce dernier était jusque-là le secrétaire général du ministère de la Défense. Le colonel-major Silas Keïta a aussi été élevé au grade de général de brigade dans un autre décret. Ce remaniement intervient 7 mois après le premier gouvernement. Et c'est un léger remaniement puisque seul le ministre de la Défense quitte le gouvernement. Tous les autres membres restent en place. Un gouvernement de 25 membres, y compris 3 ministres délégués. Le président Damiba a également élevé des officiers supérieurs au grade de général de brigade. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans le sud-est du Nigeria, la police a annoncé hier la mort de 5 personnes lors de l'attaque d'un convoi qui transportait un sénateur de l'opposition dimanche, à 5 mois des élections générales. Nathalie Barge.
Des hommes armés ont tiré sur le convoi d'Ifeanyi Ubah, un sénateur du Parti des Jeunes Progressistes dans l'État d'Anambra. 2 policiers qui l'escortaient, 2 de ses assistants civils et 1 passant ont été tués et 2 autres policiers ont été blessés, a indiqué le porte-parole de la police de l'État, Toshuku Ikenga. Le sénateur en est sorti indemne, a-t-il ajouté, précisant qu'une enquête est en cours. Le sud-est du Nigeria est en proie à une recrudescence de violence que les autorités imputent au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra. L'IPOD nie toute responsabilité dans ces attaques. Après avoir été arrêté par Interpol à l'étranger en juin 2021, son chef Nnamdi Kanu a été inculpé de trahison et emprisonné au Nigeria. Selon les médias locaux, plus de 100 policiers et autres membres des forces de sécurité ont été tués dans la région depuis le début de l'année. Des bureaux de la Commission électorale nationale ont été pris d'assaut ainsi que des prisons, provoquant la libération de nombreux détenus.
Le président libérien George Weah a accepté hier la démission de 3 hauts responsables accusés par l'administration américaine de corruption et de détournement présumé. Le point avec Abdulrahman Dia.
Nathaniel McGill, l'ancien ministre des Affaires présidentielles et directeur de cabinet du président Bill Tiwerway à la tête de l'autorité portuaire nationale, et Sema Serenius Cephus, procureur général, ont tous démissionné selon 2 communiqués de la présidence. Le président Weah avait décidé le mois dernier de suspendre les 3 officiels. L'administration américaine venait de les sanctionner pour des affaires de corruption liées à des contrats de plusieurs millions de dollars et le détournement d'au moins 1,5 million de dollars vers un compte privé. L'affaire a fait la une des journaux au Libéria pendant des semaines. Le président Weah a été critiqué par les leaders de l'opposition et le groupe de défense des droits de l'homme pour ne pas les avoir limogés. Son ancien directeur de cabinet, Nathaniel McGill, avait rejeté certaines des incriminations et décrit les autres comme vagues. Sema Cephus, procureur général, avait aussi écrit au chef de l'État pour nier les accusations dont il a fait l'objet. Dans son discours d'investiture en janvier 2018, George Weah avait promis de mettre fin à la corruption dans le service public.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a estimé lundi qu'il était trop tôt pour anticiper le résultat de la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le nord-est de l'Ukraine face aux forces russes. Eric Manirakidza.
Lors d'une conférence de presse hier à Mexico, M. Blinken a souligné que les Russes maintiennent des forces très significatives en Ukraine, ainsi que des équipements et des munitions. Mais il a ajouté, clairement, il y a des progrès significatifs de la part des Ukrainiens, particulièrement dans le nord-est. C'est le résultat du soutien que nous avons fourni, mais d'abord et avant tout, c'est le résultat de l'extraordinaire courage et résilience des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien, a affirmé Antony Blinken. L'Ukraine a annoncé lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et repris l'équivalent de 7 fois la superficie de Kiev en 1 mois à l'armée russe qui a répliqué en bombardant certaines zones reconquises. L'armée ukrainienne avait d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud avant de réaliser, au cours de la semaine écoulée, une avancée éclair dans la région de Kharkiv, dans le nord-est.
Toujours avec Eric, le président américain Joe Biden a dit lundi son rêve de guérir les cancers une bonne fois pour toutes. Son discours intervient 60 ans exactement après un discours historique de John Kennedy sur la conquête de la Lune.
En Amérique, nous pensons que tout est possible, a-t-il dit dans un discours à la librairie consacrée au président assassiné à Boston dans le nord-est, après une introduction de la fille de ce dernier, Caroline Kennedy. S'inspirant du discours prononcé par JFK il y a 60 ans, jour pour jour, dans lequel il avait promis d'envoyer un homme sur la Lune, Joe Biden a dit vouloir organiser et mesurer le meilleur de notre énergie et de nos talents pour mettre fin au cancer tel que nous le connaissons et même pour guérir les cancers une bonne fois pour toutes. Le cancer se moque de savoir si vous êtes républicain ou démocrate. Battre le cancer est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, a-t-il martelé. M. Biden a rappelé qu'il veut réduire la mortalité liée au cancer de 50% en 2025. Il a aussi évoqué la possibilité de développer des vaccins et de trouver des traitements moins lourds. Il s'agit, a-t-il dit, de faire en sorte que de plus en plus, le cancer ne soit pas une condamnation à mort, mais une maladie chronique avec laquelle les gens peuvent vivre. En promettant la conquête de la Lune, John Fitzgerald Kennedy avait créé un objectif national susceptible de rassembler le peuple américain et une cause commune.
États-Unis toujours, quelques 15 000 infirmières et infirmiers travaillant dans 16 hôpitaux du Minnesota et du Wisconsin ont débuté hier une grève de 3 jours pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il s'agit de la plus importante grève d'infirmières du secteur privé jamais organisée dans le pays, affirme l'Association des infirmières du Minnesota. Un porte-parole de cette association a confirmé que le mouvement a bien débuté hier lundi et doit durer jusqu'à jeudi. La Minute Éco, Mohamed Houmfa.
Le président libérien George Weah a accepté lundi la démission de 3 hauts responsables accusés de corruption et détournement présumés. Nathanael McGill, ancien ministre des Affaires présidentielles et directeur de cabinet du président, Bill Tsowé à la tête de l'autorité portuaire nationale et Sema Sirenu Cephus, procureur général, sont soupçonnés par l'administration américaine de corruption liée à des contrats de plusieurs millions de dollars et de détournement d'au moins 1,5 million de dollars. La Tanzanie prévoit de construire ses tout premiers musées présidentiels dans la capitale Dodoma afin de promouvoir la compréhension de la présidence, a annoncé dimanche la directrice des Antiquités au ministère des Ressources naturelles et du Tourisme. Elle a souligné que la construction des musées présidentiels agrandirait la liste des attractions touristiques du pays. La Banque africaine d'import-export, basée en Égypte, Afreximbank, va lancer un programme de financement de 6 milliards de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique, a rapporté le quotidien Daily News Egypt le 10 septembre, citant un dirigeant de l'institution. Selon ce dirigeant, le programme vise à financer les échanges commerciaux liés aux produits alimentaires, aux matières premières et aux engrais dans le but de renforcer la sécurité alimentaire des pays africains qui subissent de plein fouet les contre-coups du conflit russo-ukrainien.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun se prépare pour la Coupe du monde de football Qatar 2022.
Oui, le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, était face à la presse hier lundi à Yaoundé. Il a publié une liste de 26 joueurs retenus pour disputer 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochains. Plus de détails avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jelentap.
Au cours de cet échange avec la presse, Rigobert Sombahanaïk a levé l'équivoque sur l'absence dans l'effectif de 26 du milieu du terrain Zambo Anguissa et du défenseur central Michael Ngalde.
C'est des leaders de l'équipe. Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres.
Au sujet du poste de gardien de but, André Onana a été confirmé comme le numéro 1. Pourtant, la polémique sur la non-sélection de l'autre gardien, Fabrice Ondoa, tenu hors de la sélection nationale depuis juin 2021. En revanche, deux vétérans, Nicolas Nkoulou, 32 ans, et Georges Mandiek, 33 ans, font leur retour dans la tanière. Rigobert Song, le manager sélectionné des Lions, est notable d'y avoir besoin de leur expérience au sein du groupe. L'attaquant du Bayern de Munich, Maxime Choupo-Moting, qui revient d'une blessure, n'a pas été retenu pour ses 2 matchs amicaux. Par contre, le franco-camerounais de Brentford, Brian Mbeumo, va faire son baptême de feu avec la sélection nationale. D'autres binationaux pourraient faire partie de l'effectif final, mais le manager sélectionné des Lions, Donta, précise que, dans l'urgence, citation, il compte jouer uniquement avec ceux qui sont prêts à porter le maillot du Cameroun, fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Hakim Ziyech retrouve les Lions de l'Atlas.
Le milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, va faire son grand retour avec la sélection marocaine. L'annonce a été faite par le nouveau sélectionneur Walid Regragui. La communication entre nous a été claire. Je lui ai expliqué qu'on veut les meilleurs joueurs dans l'équipe nationale. Il en fait partie. Il avait envie de revenir. Soutient Regragui, nommé fin août à la tête des Lions de l'Atlas. La star marocaine de 28 ans avait annoncé début février sa retraite internationale suite à une brouille avec l'ex-coach Vahid Halilhodžić qui lui reprochait un manque de respect menaçant selon lui la cohésion du groupe. Au Qatar, versé dans le groupe F, le Maroc affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Bénin veut renforcer la coopération sécuritaire avec le Rwanda afin de réussir la lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux qui menacent sa sécurité et celle du continent africain. Ce vœu est exprimé par le directeur général de la police républicaine du Bénin qu'on visite au Rwanda. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Manishimwe.
Le directeur général de la police républicaine du Bénin, Soumaïla Alabi Ayaya, justifie sa visite au Rwanda par le besoin de son pays de s'inspirer de l'expérience du Rwanda dans la lutte contre le terrorisme qui menace actuellement tout le continent africain.
Vous savez que nous sommes aujourd'hui traversés par des manifestations du terrorisme, et ce qui nous oblige pour pouvoir trouver la solution de nous mettre ensemble, définir des stratégies ensemble, conduire les opérations ensemble pour le succès de nos pays. Nous avons estimé qu'il serait très bien de coopérer avec nos frères du Rwanda et bâtir ou construire notre institution auprès de leur institution pour qu'ensemble, on puisse relever le défi qui est le défi premier aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a d'autres défis liés à la cybercriminalité, d'autres défis liés au crime transnational organisé. Mais dans cet ensemble, je crois que nous pourrons aller de l'avant pour le bien de nos populations.
Côté rwandais, on explique la présence des officiers de police béninoise au Rwanda comme un prélude à une coopération beaucoup plus élargie dans les prochains jours, comme l'indique le commissaire de police Jean Bosco Kabera, porte-parole de la police du Rwanda. Cette visite est une étape importante vers la mise en place d'une coopération efficace entre la police du Bénin et celle du Rwanda par le biais des échanges entre directeurs des deux polices, lesquels pourraient aboutir à la signature prochaine des accords de coopération. C'est là l'objectif réel de cette visite. Sans donner plus de détails sur le contenu de cette coopération entre les deux polices, le directeur général de la police républicaine du Bénin s'est gardé de dire si l'envoi des troupes rwandaises sur le sol béninois est envisagé pour le moment.
Pour le moment, c'est l'échange d'expériences que nous allons commencer et dans tous les domaines, à savoir le domaine des formations, le domaine des opérations également. Et puis, par la suite, on verra un peu ce qu'on va faire.
Pour les observateurs, l'expérience du Rwanda pourrait beaucoup profiter à la police béninoise, puisque le Rwanda a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde de la paix et la sécurité dans d'autres pays africains, notamment dans la province de Cabo Delgado, Mozambique, et en République centrafricaine. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Niger, les autorités veulent accroître la production de riz et réduire la forte dépendance du pays quant à l'importation de cette céréale. Une stratégie de développement de la filière rizicole adoptée à cet effet a été lancée ce lundi à Niamey. Notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les objectifs chiffrés de la stratégie ont été annoncés par le ministre en charge de l'agriculture à la cérémonie de lancement, Alambedji Abba Issa.
Il s'agit de passer d'une production de 127 861 tonnes à 1,458,059 tonnes de padi en 2030, soit respectivement un équivalent riz blanchi de 83 109 tonnes à 947 738 tonnes.
Les principaux impacts de la mise en œuvre de cette stratégie sont la couverture des besoins de consommation du riz blanc à 100% en 2025 et de 132% à l'horizon 2030. 420 000 nouveaux emplois et 2009 nouvelles entreprises de transformation seront créées entre autres.
La stratégie est articulée autour de trois axes majeurs avec une priorité accordée à une série d'activités.
L'accroissement des superficies exploitées et une meilleure gestion des ressources en eau. La promotion et l'amélioration de l'utilisation des semences améliorées, des fertilisants et produits phytosanitaires. La mécanisation de la riziculture, l'amélioration de la qualité du riz local par l'utilisation de matériel et équipements de traitement post-récolte adéquats. La promotion de l'accès du riz local au marché national et sous-régional. La promotion de l'accès des acteurs au crédit. Le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la filière en termes de transport, décorticage, stockage, transformation et commercialisation. La recherche et la diffusion de technologies innovantes de production de riz.
Près de 426 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie étalée sur 10 années. La consommation moyenne de riz au Niger est estimée à plus de 20 kg par an et par personne. Chaque année, ce sont plus de 500 000 tonnes de riz qui sont importées, ce malgré les fortes potentialités de production dont regorge le pays à l'image des plus de 500 km de fleuve qui le traversent. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le dialogue national inclusif et la tension politique au Tchad. Alors que ce forum a du mal à progresser, l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et le parti Les Transformateurs qui a boycotté le dialogue national. Plusieurs membres de cette formation politique sont arrêtés, mais la convocation de son leader, Succès Masra, a été suspendue par la justice. Que faut-il attendre de ce dialogue national au Tchad et comment interpréter la tension politique dans ce contexte? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Burkina Faso, après plusieurs années de crise, le secteur coton qui renaissait de ses cendres est encore dans la tourmente, pour citer un de nos correspondants. Des insectes ravageurs détruisent tout sur leur passage. Pour le moment, aucun traitement n'arrive à les arrêter et c'est le désarroi chez les producteurs, nous dit de Bobo-Dioulasso notre correspondant Alidou Ouedraogo.
À Houndé, à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le constat est alarmant. Des cotonniers recouverts d'insectes commencent à perdre leur verdeur et des dizaines d'hectares de cultures sont desséchés. Les bras croisés, le regard vide, François Tani ne sait plus à quel saint se vouer.
Quand tu vois le coton, et surtout les derniers semis là, tous ces cotonniers là sont ravagés. Les feuilles ont jauni, ils commençaient à rougir, ça veut dire que ça commençait à sécher chez la plante. Et la plante n'arrive pas à développer. Donc il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de capsules.
Qu'est-ce qui explique ce phénomène inhabituel et quelle solution? Omer Aimant est entomologiste.
Alors, les ravageurs qui sont incriminés sont en fait des cicadelles. Ce sont de petits insectes de couleur verte qui vivent sur la face inférieure des feuilles de cotonnier. Ces ravageurs prolifèrent de manière très rapide. C'est un ravageur qui va donc ponctionner la sève élaborée qui a donc été fabriquée par les feuilles pour nourrir donc les différentes parties du cotonnier. Actuellement, il faut privilégier la lutte chimique. C'est quoi? C'est l'utilisation donc des insecticides chimiques de synthèse. Il faut privilégier donc l'utilisation de produits dits de type 3.
Le visage sombre, si ça coule la quarantaine dépassée, traite désespérément ce qui lui reste de ses 8 hectares.
Il me dit de traiter avec le troisième type. Je l'ai traité. Toutes mes parcelles là ont reçu les deux traitements. Troisième type. Toujours ça persiste. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ou il faut continuer?
Les conséquences peuvent être désastreuses, de l'avis du directeur de développement de la production cotonnière de la société burkinabé des fibres textiles, Ousseni Kabore.
Quand vous avez des attaques sévères, vous avez des baisses de production, les baisses de rendement sont attendues. Parce que, quand je l'ai dit, le tiers supérieur, en fait, quand vous prenez la plante, vous divisez ça en trois parties, c'est-à-dire que la partie supérieure, quand c'est attaqué, a des problèmes justement pour avoir des capsules. Donc, cette partie de la production peut être perdue. Donc, on peut dire que c'est pratiquement 30% en termes de perte de production.
Les attaques de ces ravageurs qui se manifestent habituellement dans les zones frontalières de Côte d'Ivoire et du Mali ont maintenant atteint tout le territoire. Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La République démocratique du Congo produit depuis 2 ans son chocolat. C'est dans la région de Beni, dans l'est du pays, qu'une chocolaterie a vu le jour en 2020, malgré l'insécurité dans la zone. Plus de 6 000 agriculteurs locaux bénéficient de prix préférentiels afin de réduire la pression humaine sur le parc de Virunga voisin. Visite de l'unique chocolaterie dans la zone rouge Mutuanga, à l'est de Beni, de notre correspondant Alex Kati Kataï.
Une usine qui tourne à plein régime dans la zone rouge. Nous sommes à Mutuanga, dans le parc de Virunga, à environ 40 km à l'est de Beni. Mutuanga est l'un des anciens bastions des rebelles ougandais de l'ADF. C'est ici qu'est produit le premier chocolat 100% congolais. L'initiative a vu le jour en 2020. Il s'agit d'un partenariat public-privé entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSN, et une chocolaterie belge. L'idée est de protéger le parc national de Virunga de la pression humaine. Roger Marora, responsable production et qualité à la chocolaterie Virunga.
Les 100% de bénéfices devra revenir une partie dans la communauté autour du parc et une autre dans la conservation du parc national de Virunga. Donc les actions du parc national de Virunga seront soutenues par les bénéfices qui viendront de cette usine.
Dans la cour de l'usine, on casse des cabosses pour en extraire les fèves de cacao. Ce cacao est produit dans la zone de Mutuanga et ses environs par plus de 6 000 agriculteurs locaux regroupés en coopérative. La chocolaterie leur offre des prix compétitifs afin d'éviter que la production ne tombe entre les mains des hommes armés qui écument la région. Merdi Baraka, agent de liaison entre les producteurs et la chocolaterie.
Le cacao est une des cultures très importantes dans la zone parce que économiquement ça représente pour plusieurs ménages qui sont autour du parc national de Virunga, mais aussi qui y est beaucoup plus cherché par certains rebelles aussi ou des groupes qui veulent prendre et s'en servir en fait dans des voies qui ne sont pas légales. Donc nous, avec l'ICSN, nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse travailler sur cette filière pour permettre aux agriculteurs d'avoir un marché sûr, mais aussi aller jusqu'à ajouter de la valeur.
Le Nord Kivu est sous état de siège depuis plus d'un an maintenant. L'armée a mené plusieurs opérations contre les ADF dans la région de Beni et Mutuanga et a pu déloger ces rebelles ougandais de leurs anciens bastions. Ce qui a favorisé une accalmie relative à l'origine de la croissance de la production. Mais ces efforts militaires restent fragiles. Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, en est conscient.
L'état de siège est une opportunité aussi, hein, qui contribue efficacement au développement ainsi qu'à la restauration de l'équité de l'État et le rétablissement de la paix au Nord Kivu. Beaucoup d'acquis en termes de réalisation pendant les 10 derniers mois de l'état de siège, certes, mais énormément de défis restent à relever avant l'atteinte des objectifs de stabilisation et de normalisation de la situation dans l'ensemble de la province du Nord Kivu.
Selon le responsable du parc national de Virunga, actionnaire dans la chocolaterie, des efforts conjoints entre l'armée, l'ICSN et la population ont permis de réduire l'insécurité dans plusieurs villages autour de la zone de production du cacao. Mais les poches de résistance rendent le chocolat de Virunga plus cher car mettant en danger la vie des agriculteurs. Alex Kati Kataï, des retours de Beni, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram.